Bonsoir toutes nos excuses pour ce grand retard avec lequel nous commençons cette émission. Nous avons connu des petits problèmes liés aux lignes téléphoniques. Les frontières entre la RDC et la Zambie à l'import et à l'export ont été rouvertes ce mardi 13 août après 3 jours de fermeture. C'est là la suite des négociations entreprises hier lundi à Lubumbashi entre le ministre congolais du commerce extérieur et son homologue zambien. Au cours des discussions, les deux parties ont passé ont revu les accords commerciaux qui les lient et ont aplani leurs divergences. À l'issue de ces discussions, la partie congolaise a annoncé, entre autres, que les produits autrefois frappés d'interdiction par les autorités congolaises, notamment les bières, les boissons gazeuses, les carreaux, les faïences et la chaux produits en Zambie, seront de nouveau consommés en RDC. La Zambie, de son côté, s'est engagée à garantir la libre circulation des marchandises en transit vers la RDC conformément aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce sur les échanges commerciaux. Pour rappel, le 19 juillet dernier, le ministre du Commerce extérieur de la RDC, Julien Paluku, avait annoncé l'interdiction de l'importation des bières et boissons gazeuses pour une période de 12 mois en RDC. La mesure visait, selon lui, à protéger l'industrie locale et à encourager la production nationale. En guise de protestation, la Zambie avait réagi en fermant ses 3 principales frontières avec le Haut-Katanga, à savoir Kiasumbalesa, Mukambo et Sakania. Comment analyser cette situation? Nous en parlons ce soir avec Julien Paluku, il est ministre du Commerce extérieur du gouvernement central. Monsieur le ministre, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Est-ce que vous êtes en ligne? La réalité, on va essayer de le rappeler. Aussi avec nous dans cette émission, Edouard Soumaïli, le président national des commerçants congolais dont le siège est basé dans la province du Haut-Katanga. Edouard Soumaïli, bonsoir.
Bonsoir, madame journaliste.
Et avec moi dans ce studio, Fabrice Ngabo, il est chercheur et consultant en fiscalité et finance. Fabrice Ngabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, vous nous suivez sur la 95.8. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission live sur la page Facebook, la chaîne YouTube, le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Les frontières entre la RDC et la Zambie qui étaient fermées à l'import et à l'export sur décision du gouvernement zambien sont de nouveau rouvertes dès ce mardi matin. L'accord entre les deux parties est intervenu hier lundi à Lubumbashi tard dans la soirée. Zambiens et Congolais ont accordé une dérogation spéciale de 30 jours collectivement à tous les opérateurs économiques qui avaient déjà passé les commandes des produits visés par la mesure de sauvegarde. Ils peuvent donc faire entrer leur marché en RDC sans restriction aucune. Jean Gandou pour les détails.
La RDC s'est engagée à autoriser l'entrée sur son territoire les marchandises qui étaient frappées d'interdiction pour la sauvegarde de son économie. Le ministre congolais du commerce extérieur explique ce que d'aucuns considèrent comme un rétropédalage du gouvernement congolais dans ce dossier. Julien Paluku.
Il n'y a pas eu de recul par rapport à nos décisions. Nos décisions sont d'ailleurs réconfortées par la décision zambienne de ne plus accepter que des marchandises en destination de notre pays soient ouvertes sur son sol. Tous les autres produits zambiens qui sont d'origine zambienne, comme nous avons un accord avec eux, et ont un libre passage en respectant bien sûr les droits des douanes qui sont prévus par notre législation. Et je vous annonce que les transbordements faits dans tous les pays qui nous entourent nous privent de près de 5 milliards de dollars chaque année.
Pour sa part, la Zambie s'est aussi engagée à garantir la libre circulation des marchandises en transit vers la RDC, conformément aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce sur les échanges commerciaux. Elle a aussi insisté que la RDC respecte les accords qui lient les deux pays en matière de commerce extérieur. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Merci Jean Gandou pour ce reportage. Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes ministre du commerce extérieur du gouvernement central. Vous avez rencontré votre homologue zambien hier à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour résoudre le conflit commercial qui a conduit à la fermeture de la frontière entre la RDC et la Zambie dans la partie de la province du Haut-Katanga. À l'origine de cette situation, l'interdiction par la RDC des importations entre autres des bières, boissons gazeuses et chauds en provenance de la Zambie. Beaucoup de Congolais se posent des questions après cette situation. La question est celle de savoir si le gouvernement congolais, par votre biais, avait bien analysé les besoins réels des populations qui vivent les long des frontières et qui dépendent essentiellement des produits venant des pays étrangers, avant de prendre la décision.
Oui, merci madame, merci à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je voudrais d'abord recadrer peut-être les débats pour que l'on sache exactement pourquoi les mesures ont été prises, parce que beaucoup de gens se disent, est-ce qu'on s'est réveillé un matin et prendre les mesures? Non, il y a deux ou trois pratiques illicites qui sont devenues monnaie courante au niveau de la région, à travers les pays voisins. La première pratique, en fait, ça s'appelle dumping. Le dumping, c'est une pratique qui consiste en fait à vendre sur le territoire étranger au prix plus bas que le prix pratiqué dans son propre pays. Je donne un exemple. Une bière coûte en Angola, ou en Zambie, ou à Kigali, ou à Kampala, l'équivalent de 1000 francs. Mais lorsque le pays l'exporte vers nous, la RDC, il vient le faire payer ici à 500 francs. Ça fait que la population congolaise aura une préférence sur cette bière qui coûte 500 francs, au lieu de la nôtre qui coûte, elle, 1000 francs. Cette pratique s'appelle dumping et elle est interdite par l'Organisation mondiale du commerce. Deuxième pratique, ce sont les transbordements et les fractionnements des marchandises. Tous les pays, qu'il s'agisse du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Zambie, de l'Angola, ils pratiquent ces choses-là. Ça veut dire que lorsque les opérateurs économiques amènent les conteneurs, par exemple de la Chine, de Dubaï, qui sont destinés à la RDC, quand ces conteneurs arrivent dans les pays voisins, on les ouvre. Et quand on les ouvre, les marchandises deviennent comme si c'était des marchandises qui sont de la Zambie, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya. Et ces marchandises entrent sur le territoire congolais sous le régime du trafic transfrontalier et ne payent pas des douanes. Alors la conséquence, c'est que les mêmes opérateurs économiques congolais qui, eux, ont respecté la douane, ils ont amené leurs conteneurs, ils ont payé la douane. Lorsqu'ils arrivent sur les marchés congolais, ils fixent leur prix en fonction de toutes les dépenses qu'ils ont faites. Leurs marchandises deviennent plus chères que celles-là qui ont fait l'objet de transbordements dans les pays voisins. Ces pratiques-là ont fait l'objet d'une analyse au sein du gouvernement et c'est cela qui nous a motivés à prendre des mesures de restriction d'importation pour que nous nous rassurions que les produits qui feront l'objet d'échanges entre nous et les pays voisins sont réellement des produits made in ces pays-là, c'est-à-dire fabriqués dans ces pays-là, ayant la nationalité économique de ces pays-là. Ces produits-là ne posent pas de problème. Mais lorsque ce sont des produits fractionnés qui ont été dévalisés sur un territoire étranger et qui entrent maintenant chez nous comme des marchandises de ces pays voisins, la RDC a l'obligation de frapper fort parce que ça tue notre économie et ça nous prive énormément de ressources qui peuvent nous permettre de reconstruire les pays. Voilà plus ou moins l'environnement dans lequel les mesures ont été prises et c'est tout à fait normal pour chaque pays au monde de prendre ce genre de mesures lorsqu'il constate qu'il y a le dumping, le transbordement, le fractionnement des marchandises qui sont des pratiques interdites par l'Organisation mondiale du commerce.
Alors, vous avez pris cette décision, vous avez donné les raisons pour lesquelles cette décision a été prise, mais est-ce que vous avez analysé, vous avez pensé aux conséquences même de la décision?
Bon, les conséquences, c'est simple. Nous avons des producteurs locaux, nous avons un tissu industriel qui commence plus ou moins à se réveiller petit à petit. Alors, au lieu que ces producteurs locaux soient encouragés, ils sont découragés effectivement par ce genre de pratiques. Et les enquêtes que nous avons menées montrent que la moyenne de la durée de vie d'une entreprise en RDC est située entre 2 et 3 ans. C'est-à-dire, quelqu'un vient s'installer en RDC, en 3 ans, il est obligé de fermer. Pourquoi ? À cause de la concurrence. Et les gens préfèrent aller s'installer en Zambie, aller s'installer à Kigali, aller s'installer à Kampala, aller s'installer à Nairobi, aller s'installer à Dar es Salaam, parce qu'ils se disent, si on s'installe en RDC, comme tout le monde peut amener ses marchandises sans beaucoup de contrôle, eh bien je vais perdre. C'est la raison pour laquelle les gens ont tendance à croire que les produits made in Congo sont plus chers que les produits qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas à cause de la taxation qui est très très solide en RDC, mais c'est à cause de ces pratiques de dumping, de transbordement et de fractionnement des marchandises qui viennent concurrencer les produits congolais. Et moi, comme ministre du Commerce extérieur, ayant la régulation des importations et des exportations dans mes attributions, le gouvernement m'a chargé de prendre des mesures pour que je puisse sauvegarder la production nationale de manière à nous permettre de sauver les quelques emplois que nous avons, mais également de sauver plus ou moins notre économie de la menace qui pèse sur elle.
Alors, monsieur le ministre, ne fallait-il pas commencer, par exemple, par inonder les marchés des produits qui sont interdits d'importation avant de prendre cette décision?
Nous n'avons pas interdit aux produits d'entrer sur le sol congolais. Nous avons interdit les produits qui font l'objet de pratiques illicites. C'est-à-dire, lorsque vous amenez les produits à Kigali qui sont destinés au Rwanda, vous voulez les amener au Congo sans paiement de frais de douane parce que bénéficiant du régime de trafic frontalier. C'est tuer notre économie. Nous voudrions que les produits qui arrivent au Congo les soient par les procédures reconnues. C'est-à-dire, il y a l'embarquement à Dubaï, l'embarquement à Chine, destination finale RDC. Ces produits-là vont arriver et ne feront l'objet d'aucune interdiction. Mais lorsque les produits sont embarqués en Chine, sont embarqués à Dubaï, à destination de la RDC, mais finissent par Kampala, finissent par Lusaka, et c'est de là qu'on les sort dans les petites voitures, dans les petits véhicules, pour les amener comme des marchandises transfrontalières, c'est là le problème. C'est cette interdiction que nous avons faite pour que nous revenions aux fondamentaux du commerce international, parce que les règles de l'OMC sont telles que on ne peut pas autoriser que des pays voisins pratiquent ce genre de choses qui tuent pratiquement notre économie, parce que les gens nous considèrent comme simplement un marché, les gens nous considèrent comme un passoire, les gens pensent que en RDC c'est la danse, c'est la musique. On ne peut pas contrôler ce genre de situation, mais j'informe maintenant les gens que, comme ministre du Commerce extérieur, je dois faire participer la RDC au commerce international, non pas comme observateur, mais comme acteur dans la définition des jeux de rôle que chacun doit jouer.
On va vous garder dans cette émission, monsieur le ministre, parce qu'il y a beaucoup de questions venant des Congolais qui vous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger. Avant de prendre toutes les réactions, on va donner la parole à Fabrice Ngabo qui est avec nous, qui est chercheur et consultant en fiscalité et finance. Fabrice Ngabo, comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup, madame, de l'invitation. Je salue tous les co-débatteurs, dont monsieur le ministre Julien Paloukou, avec qui nous sommes dans cette émission. Je salue également tous les auditeurs. La question de ce soir, elle est tellement importante qu'elle nécessite qu'on l'aborde avec beaucoup de prudence. En fait, en 1960, lorsque le pays accède à l'indépendance, ce pays est reconnu indépendant, mais politiquement. Alors que sur le plan économique, c'est un pays qui est resté totalement dépendant du reste du monde. Alors, faut-il accepter que ce pays continue à demeurer ce marché pour les entreprises étrangères qui financent les emplois chez eux, qui financent le développement chez eux par les marchés intérieurs congolais, ou faut-il, à un moment donné de l'histoire, prendre des décisions courageuses pour dire, bon, écoutez, on peut interdire un certain nombre de pays qui nous viennent d'un certain coin de la planète d'accéder sur notre territoire par des pratiques de commerce illicite. Je pense que la décision que le gouvernement avait prise par le biais du ministre du Commerce extérieur est une décision salutaire. Salutaire, on sait que, vous savez, l'économie, l'industrie congolaise est encore trop fragile. Et l'objet de toutes ces pratiques de dumping, de transbordement, fractionnement des marchandises, ainsi de suite, vous retrouvez des produits qui sont fabriqués ailleurs, qui viennent coûter ici beaucoup, beaucoup moins cher que les produits qui sont fabriqués sur place. Et là, on va dire, l'industrie congolaise n'est pas compétitive. Mais non, il est question ici de voir comment on va protéger l'industrie congolaise, et premièrement, et deuxièmement, comment susciter les initiatives entrepreneuriales dans le chef de la population. Et donc, moi, je pense que la décision, elle est bonne, mais le ministre semble revenir un tout petit peu dans les inquiétudes que nous avions exprimées il n'y a pas longtemps, lorsque notre pays était en train d'adhérer à la ZLECAF, rappelez-vous, la zone de libre-échange continentale africaine, qui prévoyait que les produits d'origine africaine, n'est-ce pas, puissent entrer sur le sol congolais sans payer des droits de douane. Ce qui était un danger, à l'époque nous avions alerté sur le fait que l'industrie locale était menacée par des produits d'origine de pays africains, alors que, comme vous le savez, dans la pratique, des pays peuvent venir de l'Asie, des États-Unis, ainsi de l'Europe, ainsi de suite, mais arriver dans les pays africains, étiqueter Made in Uganda, Angola, ainsi de suite, et entrer sur le territoire au bénéfice des avantages de la ZLECAF. Nous avions dit à ce temps-là qu'il fallait d'abord procéder par améliorer la capacité productive du pays et sécuriser les quelques industries existantes pour pouvoir s'ouvrir plus tard. On a estimé que nous n'étions pas encore prêts pour pouvoir nous ouvrir sur le pays, les restes des autres pays, de cette manière-là. Même certaines grandes économies du monde, dont les États-Unis, sont encore dans des pratiques protectionnistes. Pourquoi nous devrions décider de nous ouvrir? Et donc, l'inquiétude du ministre, je comprends cette inquiétude, elle est tout à fait légitime, nous la partageons, mais je pense que nous sommes rattrapés. Nous sommes rattrapés par nos propres erreurs et à son temps, mais je pense que c'est une décision courageuse. Je pense que M. le ministre ne devrait pas seulement se limiter à ces produits qui sont listés dans son arrêté, mais il doit aller beaucoup plus loin pour protéger réellement l'industrie congolaise. Et vous savez qu'assez souvent, il y a une grande différence entre ce qui est prévu et ce qui est fait. Est-ce qu'il y aura un contrôle d'un certain niveau, un contrôle de qualité qui permettra à ce que ces dispositions soient respectées? Demain, vous allez vous rendre compte que les mêmes pratiques vont continuer. Des pays qui sont à destination, par exemple, de la Zambie, qui vont toujours entrer au bénéfice de cet accord entre la RDC et ce pays, sur notre territoire, et l'industrie congolaise va continuer à souffrir. Moi, je pense qu'à un certain moment, nous devons réfléchir davantage nos décisions. J'appuie la décision du ministre, mais moi, je continue à désapprouver cette décision qui avait conduit le pays à entrer dans la ZLECAF au risque de perdre les quelques industries que nous avions. Pourtant, ce sont elles qui produisent davantage de la richesse sur notre pays. Ce sont ces industries-là qui produisent des impôts pour l'État, qui résolvent des problèmes de chômage dans notre pays. Et donc, moi, je pense que on doit aller au-delà, on doit élargir cette liste-là et faire en sorte que les Congolais eux-mêmes soient capables de produire ce qu'ils consomment.
Alors, il y a des auditeurs, des internautes qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Capi, Ornica Pierre Banza depuis l'Ikasi dans le Haut-Katanga. La reprise de ses activités est bonne, nous saluons cela, mais seulement nous devons réfléchir dans le sens d'une production interne suffisante, vendue à un prix sensiblement réduit, car cela nous éviterait la demande extérieure et d'office, ce sera une interdiction sans interdiction. Touraya Rajabou lui pense que l'autosuffisance alimentaire est la seule solution pour la République démocratique du Congo. Nous devons produire localement et diversifier notre économie, donc il faut prioriser le secteur agricole.
Tout à fait, ils ont totalement raison. C'est que on ne peut pas compter sur des décisions conjoncturelles pour pouvoir développer une nation aussi grande que la RDC. Je crois qu'il est question aujourd'hui que la RDC investisse dans les décisions qui sont structurelles. Et diversifier l'économie signifie que l'on investisse dans des facteurs qui peuvent permettre de relancer la production dans tous les secteurs et partout à la fois. Par exemple, il sera impossible, aussi longtemps qu'on va considérer la question d'infrastructures routières comme une question, je vais dire, mystérieuse, une question taboue qu'on aborde avec beaucoup de d'hypocrisie, alors qu'on n'y investit pas suffisamment de moyens. Je me dis, madame, on peut reculer un tout petit peu. Jusqu'en 2017-18, nous avions un budget de près de 5 milliards. Le pays et les institutions ont fonctionné. Mais aujourd'hui, on a un billet qui tourne autour de 16 milliards. On est incapable de se dire, si la question d'infrastructure routière nous tient à cœur, on y investit par exemple 4 milliards de dollars l'an. Ça nous permet de construire pratiquement 5 000 kilomètres l'an. Après 5 ans, nous aurons par exemple 25 000 kilomètres de route. Nous avons, je le dis sous le contrôle de son Excellence Monsieur le Ministre, parce que je le connais très bien, il est très attaché aux questions de développement. Il a eu le privilège d'organiser une initiative très intéressante, la masterclass au ministère de l'Industrie, dont j'ai eu l'honneur d'être parmi les formateurs. Et c'est qu'il est très attaché aux questions de développement. Il est impossible de penser le développement d'un pays si on n'investit pas, par exemple, dans les routes. Est-ce que vous savez que nous avons un réseau national routier estimé à 153 000 km de route, mais asphalté à moins de 10%. Mm-hmm. Comment voulez-vous que dans ce contexte-là, on puisse concevoir la diversification de l'économie et le soutien de la production intéressée? C'est absolument impossible. Et donc, ça c'est la première chose. De deux, comment voulez-vous qu'un pays qui a un taux d'accès à l'électricité de moins de 20% puisse rêver diversifier son économie? Être développé signifie être industrialisé. On ne peut soutenir réellement l'industrie locale que si l'État a suffisamment investi dans les infrastructures hydroélectriques pour pouvoir accroître cet indicateur d'accès à l'électricité, l'accès à l'eau à moins de 30%. Vous avez un pays où le niveau de corruption a atteint un seuil qui n'est pas compréhensible. Vous avez un pays où la sécurité a pratiquement, dans le fait, balkanisé le pays. Ça fait qu'on ne peut pas quitter d'un point. Je vous donne par exemple un cas. Vous savez que dans le sud Kivu, à Shabunda, à Mwenga, on produit du bon riz. Mais ces riz-là ne peuvent pas atteindre, par exemple, les grands centres de consommation, parce que simplement, dans certains coins, il y a un problème d'insécurité, et dans d'autres, et de manière générale, il y a un problème sérieux d'infrastructure routière. Et donc, moi, je pense que assez souvent, la question de développement dans notre pays, nous l'abordons de manière hypocrite, avec des actions à très court terme, des actions qui sont conjoncturelles. Il faut aborder la question du développement d'un pays aussi vaste que la RDC, dans une approche tout à fait, disons, à long terme, par des solutions structurelles.
Émérie Kalo, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Capi, voici enfin des vrais débats qui devraient intéresser davantage les Congolais. Le ministre se présente comme un maître d'école qui réveille les Congolais sur les principes fondamentaux des développements. Bravo à lui. Alors, Edouard Soumaïli, est-ce que vous êtes en ligne? Edouard Soumaïli, oui, je rappelle que vous êtes président national des commerçants congolais dont le siège se trouve dans la province du Haut-Katanga. En tant que commerçant, hein, comment vous avez réagi d'abord à la décision de la Zambie de pouvoir fermer ses frontières suite à la décision du gouvernement congolais d'interdire l'importation de certains produits, notamment les bières, les boissons gazeuses, chaud, faïence?
Merci beaucoup, madame le journaliste. Je remercie également son excellence, monsieur le ministre, qui était avec nous à Lubumbashi. D'ailleurs, j'ai dit que l'excellence ministre Julien est très sage. Ce qu'il a fait hier dans la réunion, en fait, la Zambie a été épatée parce que dans la salle, ce que j'ai constaté, j'ai vu que les Zambiens, les Indiens qui étaient dans la salle, ils ont trouvé qu'avec le Congo maintenant, ça barre. Mais en fait, on a trouvé que quand vous voyez leur visage là, c'était un problème. Mais quand il y a eu un communiqué final, ils ont même souri. Alors, c'est pour dire que ce qu'ils fabriquent là-bas, c'est pour déverser au Congo. S'il n'y a pas quelqu'un, si la Zambie produit pour le Congo, il n'a qu'à se frotter les mains. Madame les journalistes, je vais ouvrir une parenthèse. Nous voyons que notre pays, les gens viennent, c'est un pays où on peut faire n'importe comment, où on peut faire n'importe quoi. Les capitaux là, ils n'ont pas de capitaux, ils n'ont pas d'argent. Il y a même des Congolais plus que ces gens-là qui viennent et qui disent qu'ils sont investisseurs. C'est faux, parce qu'ils viennent même ramasser ici chez nous au Congo. Quand vous allez en Tanzanie, pour installer un magasin, il faut montrer d'abord ce que vous avez comme capital. Mais ce que les autres viennent investir au Congo, c'est toujours avec notre argent. Le ministre a souligné un problème là, de petits véhicules qui transportent des marchandises. Mais si on vous dit ce qui se passe, c'est vraiment une histoire terrible. Donc la marchandise est fractionnée à partir même de Dar es Salaam. La marchandise est fractionnée à partir même de l'Afrique du Sud. Donc quand vous le voyez, ils viennent ici, il n'y a pas de traçabilité. Si aujourd'hui le ministre a ouvert l'œil pour voir si réellement le Congo a besoin de réaliser les recettes, c'est bien. Mais nous donnons aussi la faute à la DGDA. Parce que la DGDA donne la carte de sortie des véhicules qui sont des côtés Congo, qui vont aller prendre la marchandise vers la Zambie. Or, quand vous voyez aujourd'hui, la Zambie est en train d'aménager le parking pour nous consommer. 1200 dollars par trac. Et ces tracs, quand ils viennent, ils vont descendre la marchandise et quand ils passent, ils disent qu'il est en transit. Mais le pays destinataire de la marchandise, c'est la RDC. Mais pourquoi pas la Zambie ne prenne pas cette disposition de laisser la marchandise qu'il fait passer en transit pour aller le déposer vers la destination. Nous, en tant que corporation, je peux aussi ouvrir une parenthèse pour que le ministre connaisse ce que nous sommes. Nous sommes une association de commerçants congolais opérant à l'étranger. Nous avons des antennes, nous avons beaucoup de bureaux. Donc la RDC se flotte les mains. Il a produit les gens capables. Il a produit les gens intellectuels. Ce n'est pas seulement qu'il y a la fête. Non, il y a plusieurs corporations. Si le ministre de commerce extérieur doit mettre la main et doit aussi chercher toutes ces corporations-là pour lui donner les informations, vous allez voir que nous allons quand même bien marcher.
Alors, monsieur Soumaïli,
la marchandise qui est fractionnée à Kasumbalesa, cette marchandise est fractionnée par nous-mêmes. C'est par les déclarants, c'est par les douaniers, c'est par beaucoup de gens. Il y a même des services publics qui entrent, il y a même la politique qui entre dans cette marchandise. Comment voulez-vous dire que la marchandise est venue de Chine, n'arrive pas à Lubumbashi? n'arrive pas en RDC. C'est parce que cette marchandise est déjà fractionnée à Kasumbalesa, à Mukambo, à Sakanya, et on commence à les transporter avec des petits moyens de transport. Par exemple, il y a le bus.
Alors, monsieur Edouard Soumaïli, il y a des Congolais qui nous suivent. Certains pensent que on a pris une décision sans en calculer les conséquences. Le Haut-Katanga, par exemple, 90% de la farine de maïs ou grains de maïs proviennent de la Zambie. Et l'espace Katanga et l'espace Kasaïen dépendent essentiellement de ce maïs qui provient de la Zambie. Si on doit interdire les importations, ça risque de créer une surchauffe au niveau de la province.
Merci beaucoup. Je pense en matière de la farine de maïs. La farine de maïs, aujourd'hui, la Zambie n'en a pas. La Zambie ne nous donne pas cette facilité. Il y a une soudure agricole dans son pays. Et nous nous intéressons plus.
Allô, est-ce que vous m'entendez? Je crois que le problème de réseau persiste. On va ouvrir notre standard pour écouter aussi ces auditeurs qui nous appellent. Direction Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est Maître Olin Sengangabo. Je vous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Allez regarder de près ou de loin cette décision. Moi, je pense que le gouvernement congolais s'est attrapé de son propre piège. D'autant plus qu'il interdit l'importation, alors que le pays n'a aucune production locale équivalente à la Zambie. Moi, je pense que le gouvernement congolais devait longuement réfléchir avant d'agir quant à ce. Ni n'ignore à ce jour que la province du Katanga, démembrée, dépend presque à 75% des productions qui viennent de la Zambie. Alors, faudra-t-il sacrifier la population de cette contrée pour une décision qui ne contribue à rien au quotidien de la population?
Monsieur le ministre, comment vous répondez à cet auditeur de Kisangani?
Madame la journaliste, moi ce qui m'étonne, ce sont souvent les réactions des Congolais. Finalement, ils veulent quel type de dirigeant dans ce pays ici? Lorsque les dirigeants veulent prendre des décisions pour donner de l'honneur, pour redorer l'image du pays, les gens s'en prennent, on n'a pas d'anticipation, on n'a pas bien réfléchi, nous ne nous sommes pas réveillés d'un matin de notre lit pour commencer à prendre ces mesures. Moi, je crois que les gens confondent en fait les mesures de restriction avec les autorisations d'importation. Je dois préciser ici que entre la RDC et la Zambie, par exemple, nous avons un accord commercial qui définit les produits qui doivent entrer sur le territoire congolais. Ces produits-là doivent être d'origine de ces pays avec lesquels nous avons signé l'accord commercial. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de nous importer ou d'exporter vers la RDC des produits d'origine zambienne, eh bien, la Zambie amène des produits qui viennent d'ailleurs au motif de bénéficier de notre accord commercial. C'est ça le vrai problème. Alors, lorsque nous interdisons cela, c'est pour veiller à ce que nous commencions à soutenir l'entrepreneuriat local. Je suis d'avis avec le co-débatteur qui a rappelé les supports infrastructurels que nous devons développer en tant que pays, mais cela ne nous empêche pas de commencer déjà à réduire la possibilité d'étouffer les petites initiatives locales qui naissent et qui sont concurrencées par des pratiques illicites qui sont pourtant interdites par toutes les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc je voudrais rappeler à M. Paulin Senga que nous ne sommes pas tombés dans notre piège, mais nous voulons redonner à la RDC la possibilité de construire son écosystème industriel, son écosystème économique. L'État a sa part, les opérateurs économiques ont leur part. C'est pourquoi d'ailleurs ce matin à Lubumbashi, j'ai organisé une réunion avec la Fédération des entreprises du Congo pour dire pourquoi nous devons chaque fois pleurnicher lorsqu'il y a fermeture des frontières, étant donné que si la Zambie est le seul pays qui nous approvisionne en farine, alors que la Zambie elle-même est menacée par les déserts. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables,
l'espace Katanga et l'espace Kasai en ont presque les tiers. Et bon, si nous devons prendre la simple production de 4 à 5 tonnes à l'hectare, il nous suffit de cultiver 250 000 hectares pour produire 1 million de tonnes de maïs. Or, la demande en tonnes de maïs, la demande annuelle pour l'espace Katanga et l'espace Kasai est de 1 million de tonnes de maïs. Voilà pourquoi j'ai interpellé la FEC pour dire, si vous estimez que l'État congolais doit vous accorder des facilités en termes d'importation de tracteurs, importation de semences, importation d'engrais, importation d'outils aratoires, importation de tous les intrants qui entrent dans l'agriculture, l'État congolais est prêt à pouvoir subventionner son agriculture. Et nous avons été d'accord que dans les 48 heures, ils vont nous transmettre leur mémo pour que je soumette la question au niveau du gouvernement et que de notre côté, comme gouvernement, nous remplissions notre part en défiscalisant l'agriculture et en permettant désormais à la RDC de pouvoir s'autosuffire. À côté de ce programme, nous devons piloter un vaste programme de construction des infrastructures. La route Lubumbashi-Kamina, la route Lubumbashi-Kalemi, les ports de Lobito avec les chemins de fer, tout cela sont des programmes qui doivent aller de pair avec la politique que je suis en train de développer ici, pour que le jour où un pays va nous fermer la frontière, que nous soyons capables d'avoir une alternative pour que nous ne fassions pas l'objet de chantage des pays au motif que si on ferme une frontière, on ne sait pas traverser, on ne sait pas faire passer nos marchandises. Donc, que la population congolaise qui me suit sache que l'ambition du gouvernement, c'est vraiment de pouvoir développer son écosystème économique comme les font d'autres pays. Et pour commencer, on ne doit pas attendre de faire des enquêtes. On a commencé maintenant, et le ministère du Commerce extérieur que j'anime, j'ai décidé de pouvoir accompagner le programme du gouvernement dans la filière qui est la mienne jusqu'au jour où on m'arrêtera de ne pas agir. Et je ne pense pas que je serai arrêté parce que les compétences étant d'attribution, je vais remplir mes fonctions en tant que ministre du Commerce extérieur, aider les opérateurs congolais à échapper au dumping et à la compétitivité qui viennent de l'extérieur pour tuer la petite économie qui commence à se développer et qui procure de l'emploi.
Il y a une question, question pour vous, monsieur le ministre, qui nous vient de Kasumbalesa, Justin Nicodème Chiswaka. Je suis à Kasumbalesa. La mesure d'interdiction d'importation des produits gazeux, bières et d'autres produits a perturbé non seulement les activités douanières, mais aussi les prix des denrées alimentaires sur le marché. Par exemple, une bouteille de boisson gazeuse limonade qui s'est vendée à 500 francs se négocie aujourd'hui à 800 francs congolais. Les déclarants qui vivaient de ces business sont tous contraints au chômage. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour maintenir les prix habituels et résoudre les problèmes des débrouillards qui ont manifesté contre cette décision?
Je pense que dans un pays, on ne va pas commencer à légitimer l'économie informelle. Nous devons ramener tout le monde vers l'économie formelle. Et je crois que M. Justin Chiswaka, qui me suit de Kasumbalesa, devra le comprendre. Les pays ne fonctionnent pas sur des bases, des bilangas, où les gens ont des trottinettes ou des vélos qui amènent les produits de la Zambie vers la RDC. Ce n'est pas comme ça qu'une économie fonctionne. Je crois que nous avons beaucoup à faire. Ce n'est pas parce que nous voulons être élus que nous devons laisser passer des choses qui n'honorent pas la République. Quand les partenaires ou les étrangers passent par une frontière et voient ce genre de pratiques, ils se moquent de la République démocratique du Congo parce que ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. Et donc moi je crois que on devra mettre fin à ça pour honorer la République démocratique du Congo. On devra mettre fin à ça pour revenir vers le secteur formel et au gouvernement de trouver des mécanismes qui doivent créer des emplois pour sa population et non pas laisser. On ne peut pas arriver dans un endroit où on filme du chanvre et puis on dit bon voilà, comme ils sont 1000 personnes, ils vont me donner leur voix, je les laisse filmer du chanvre parce que si je les leur interdis, et bon, ils ne veulent plus me lire. Donc moi je crois que en tant que patriote, en tant que Congolais pris de paix, qui veut que la RDC retrouve sa grandeur, je dois, sans risque d'être contredit, ramener l'opinion vers le secteur formel pour que nous ressemblions à d'autres États. Il y a des États voisins qu'on considère comme des États modèles parce qu'ils sont arrivés à remettre de l'ordre à leur système économique. Et ce que je ferai en tant que ministre du commerce extérieur.
Alors, monsieur le ministre, une dérogation spéciale de 30 jours a été accordée à tous les opérateurs économiques qui avaient déjà passé les commandes des produits visés par la mesure de sauvegarde. Après le 30 jours, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, je pense que les gens n'ont pas compris. L'arrêté que j'ai signé, les gens ne l'ont pas lu. L'arrêté avait déjà prévu que il y a des marchandises qui étaient soit sur la mer, soit sur l'océan, soit sur la route, qui avaient été embarquées avant que je ne prenne la mesure. Mais ces marchandises-là sont arrivées à la frontière, pendant que la mesure est maintenant exécutoire. C'est tout à fait normal que je ne peux pas demander à ces conteneurs de rentrer en Chine, de rentrer à Dubaï, de rentrer aux États-Unis. Ces conteneurs ont 30 jours pour devoir passer, parce qu'on estime que pour quitter la Chine vers la RDC, c'est peut-être 2 mois. Et depuis que j'ai pris la mesure, il s'est déjà écoulé autant de jours. Et nous estimons que dans les 30 jours, tout ce qui était sur la mer ou l'océan seront déjà arrivés. Maintenant, dans les 30 jours, on va mettre en place une commission qui va commencer à vérifier réellement quels sont les produits d'origine de tous les pays qui nous entourent. De façon que quand nous allons commencer à opérer les échanges commerciaux entre les pays qui nous entourent, que nous nous rassurions que si la boisson X nous vient, nous est importée de la Zambie, elle est vraiment produite en Zambie. Si c'est de la Bavaria ou de Bavaria est produite en Afrique du Sud, mais les opérateurs zambiens et congolais veulent importer Bavaria comme si c'était un produit made in Lusaka ou made in Zambia. Donc le mois va permettre à l'équipe de travailler sur les règles d'origine, parce que ce que je voudrais que les auditeurs de Radio Okapi retiennent, c'est le mot règles d'origine. Désormais, les produits qui bénéficient des avantages liés aux accords commerciaux entre nos voisins sont des produits qui ont la nationalité économique de ces pays-là, c'est-à-dire qui sont produits dans ces pays-là. Mais tous les autres produits qui nous viennent d'ailleurs, qui font l'objet de fractionnements dans les pays voisins, seront frappés parce que tout simplement ces produits viennent faire la concurrence aux opérateurs économiques qui, eux, ont respecté les procédures normales de dédouanement de leurs marchandises. C'est des pratiques comme ça que nous devons interdire, et les gens doivent comprendre déjà à s'habituer à des termes comme règles d'origine, comme dumping, comme transbordement, comme fractionnement des marchandises. Moi qui viens de l'Est, je connais de quoi je parle parce que c'est des pratiques qui s'appliquent dans les pays voisins. Le Rwanda par exemple a un grand magasin, un grand dépôt où il importe des marchandises de la Chine et de partout là-bas, et ce sont ces marchandises qui entrent sur le sol congolais pour tuer l'économie de la RDC parce qu'ils ne payent pas de frais de douane et concurrencer les opérateurs économiques qui, eux, ont respecté la procédure normale.
On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
Alphonse Sekou, depuis la ville province de Kinshasa. Je pense que les mesures prises par le ministre du commerce extérieur étaient salvatrices pour le bien-être de la production locale. Revenir sur ça est une erreur stratégique pour la RDC, qui est considérée par ses voisins comme un grand marché d'écoulement de leurs produits, et non comme une force économique qui peut aussi imposer les règles du jeu. Le gouvernement congolais ne devrait pas céder aux caprices de la Zambie. Il devrait plutôt rester catégoriquement ferme pour qu'ils comprennent que les Congolais ont pris conscience de leur situation.
Réaction, Fabrice.
Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec l'auditeur parce que le ministre a clarifié sa décision. La décision a été clarifiée. On sait qu'il n'est pas revenu sur l'arrêté. L'arrêté a été signé, il est d'application. Mais c'est seulement, il y a un certain nombre de pratiques de commerce illégales qui ont été identifiées et combattues. Et donc, autant l'auditeur parle de cela, autant j'ajoute que la concurrence déloyale, comme l'a dit le ministre, doit être combattue effectivement. Parce que quand les Congolais qui produisent ici et qui importent ici au pays, se soumettant à toutes les exigences d'ordre légal, font face à ce genre de pratiques, tout simplement, ils font face à un phénomène de mévente dans leur exploitation, ce qui met en difficulté leur activité. Et donc, moi, je pense que nous devons évoluer sur ce ton-là. Mais le ministre est revenu justement sur le véritable handicap de l'économie congolaise. Un pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables, qui a 4 millions de terres irrigables, dont seulement 1% est cultivé. Vous pouvez me dire pourquoi on n'investit pas dans la culture, alors que, par ailleurs, vous savez, la majorité de la population congolaise vit en milieu rural. Or, la population active des milieux ruraux, environ 70%, 70% vit de l'agriculture. Mais de quelle agriculture? L'agriculture paysanne. Donc moi, je pense que, à un moment, nous ne devons pas fuir le débat. Le véritable débat consiste pour l'État à s'acquitter de ses obligations, à faire sa part. La population, je le démontre que elle est travailleuse, elle est disposée à travailler, mais dans quelles conditions? Dans quel contexte? Voyez-vous? On peut avoir une population la plus courageuse au monde, mais madame, dans l'insécurité, sans route, sans électricité, vous ne pouvez pas attendre cette population les meilleurs. Donc moi, je pense qu'à un moment, nous devons prendre le courage de lier les discours à l'acte. C'est-à-dire, nous avons entendu beaucoup de jolis discours, hein? La revanche du sol sur le sous-sol, à peine on a lancé une campagne agricole. Un moment, d'ailleurs, je me rappelle, autant le ministre a pris un arrêté dans le cadre des mesures conjoncturelles, autant nous avons suivi son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie, prendre aussi une série de mesures, notamment réduisant ou éliminant les droits des douanes et certains frais qui entrent dans la structure de certains prix pour réduire notamment les prix sur le marché. Mais je dis, c'est bien beau. Mais là, nous sommes toujours dans les décisions conjoncturelles. Il faut aller là où la population nous attend. La population nous attend sur ce terrain-là de construction des infrastructures. À un moment, on doit avoir des priorités. Finalement, à un moment, on se pose la question, c'est quoi les priorités des dirigeants congolais? C'est quoi les priorités? Parce que, regardez, le même débat que nous tenons aujourd'hui, qui relance les préoccupations de la population en termes de routes et ainsi de suite, c'est le même débat que nous avons tenu en 2018. On l'a tenu en 2023, on le tient aujourd'hui. En 2028, encore, on va parler des mêmes problèmes. Pourquoi on n'avance pas? Parce qu'en fait, il n'y a pas de priorité.
On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas d'infrastructure. Privilégier la production locale s'il n'y a pas d'infrastructure.
C'est impossible. Regardez même dans les pays qui sont déjà avancés comme la Chine par exemple. Aujourd'hui la Chine fait une véritable révolution en termes d'infrastructure routière. La première sortie d'ailleurs du président Poutine depuis que la Russie avait envahi l'Ukraine, c'était en Chine. En Chine, dans un sommet sur les routes. Mais pourquoi nous qui sommes fragiles, nous qui sommes quasiment inexistants, nous négligeons l'essentiel? Je crois qu'à un moment, nous devons d'abord nous dire quelles sont nos priorités. Et ces priorités, nous devons les couler dans une planification durable. C'est quoi la vision de développement de notre pays en matière d'infrastructure? Est-ce que lorsque le Madame la Première Ministre au Parlement, il est allé défendre son programme pour être investi, vous l'avez entendu sortir un chiffre pour nous dire durant les 5 ans, on va nous construire, par exemple, 10 000 km de route, 25 000 km de route? Non, il n'y en a pas. Il nous a dit, on va produire... Bref, je pense qu'il y a véritablement une absence de vision. Nous devons arriver un moment à concevoir la vision de développement. C'est quoi la vision de développement de notre pays? Qu'est-ce que la RDC veut devenir en 30 ans? Qu'est-ce que la RDC veut devenir en 50 ans en matière de route, en matière d'accès à l'électricité, en matière d'accès à l'eau, en matière de lutte contre la corruption, en matière de sécurité? C'est quoi la vision de la RDC? Moi, je crois que nous sommes en train de nous perdre dans ces genres de considérations de vie au quotidien, au lieu de concevoir les développements du pays sur le long terme, comme l'ont fait tous les autres pays aujourd'hui qui ont changé de visage.
Edouard Soumaïli, est-ce que vous êtes en ligne?
Bien sûr, je suis en ligne.
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit, Raphaël Raff, il pense que, en fait, il demande au gouvernement de privilégier la production locale, car si nous consommons localement, ça permet aux producteurs locaux, et c'est là les motifs de produire encore plus et les pousse à émerger économiquement. Les pays peuvent parvenir à booster son développement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup, madame journaliste. Je pense que avec notre auditeur, c'est bon. Ce qu'il dit là, c'est meilleur. Mais nous avons un problème ici au Congo. Il y a trop de taxes qui tuent. Donc, vous allez trouver beaucoup de taxes. C'est pourquoi les gens fuient. Vous allez trouver même les services publics en avoir même 5, 10, il y a même des redressements. Finalement, c'est quoi? Les gens ne comprennent pas. La douane qui perçoit la marchandise doit quand même faire un objet de réduire certaines taxes. Or, il y a une loi qui dit, il y a la loi qui avait institué le guichet unique. Donc tout le monde devrait se retrouver dans le guichet unique. Maintenant, on trouve ceux qui sont dans le guichet unique après avoir plutôt perçu, mais ils vont encore en dehors de cette guichet unique, commencer encore à réclamer. C'est le cas de l'OCC. Donc, nous sommes là pour dénoncer le mal. Moi, je suis le président national des commerçants congolais. Je suis à l'étranger. Mais quand on voit tout ce qui se passe ici en RDC, ça ne vaut pas la peine. Il y a trop de taxes. Nous allons protéger cette production locale. C'est bien. Mais vous allez trouver la brasserie. Une bière coûte très cher, énormément très cher. Vous allez trouver une sucrée, au lieu de l'acheter même à 500 francs, vous l'achetez à 3000 francs. Donc c'est ce qui fait que les gens sont fatigués de cette production locale. Mais moi, je félicite le ministre. Il est très sage.
Alors,
ce qu'il a fait à Lubumbashi,
Monsieur Soumaïli, vous l'avez déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ce genre de situation ne se répète? Parce que très souvent, on assiste à cette fermeture des frontières entre la RDC et la Zambie. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter cela?
Pour éviter cela, j'appuie l'idée de son Excellence, Monsieur le Ministre, pour créer une commission. Cette commission doit faire le suivi de connaître s'il y a le dumping. Le dumping, ce sont des commerçants de l'étranger, des Indiens, de ceci, cela, que je viens de citer, qui amènent, au lieu d'amener tout un conteneur à la RDC, il fasse ça des fractions de marchandises dans des zones neutres. Alors, maintenant, ce n'est pas dans la zone neutre, c'est la Zambie maintenant qui aménage le parking pour pouvoir décharger la marchandise destinée à la RDC. Vous trouvez ça normal? Quand ça passe, c'est en transit. Quand ça arrive en Zambie, c'est local. Maintenant, ça ne va pas. L'Excellence peut chercher comment mettre le moyen pour que nous puissions nous tous ici, parce que nous sommes déjà de l'étranger, nous pouvons aussi l'accompagner et qu'il nous mette aussi dans cette commission qu'il a dit le matin à Lubumbashi. Nous sommes prêts à l'aider à voir cette marchandise qui vient de part et d'autre si réellement est fractionnée. Parce qu'ici c'est fractionné, c'est transporté par des petits véhicules, Dubaï, Fuso, un système là qu'on a créé ici, qui ne donne pas la traçabilité de cette marchandise, si c'était un conteneur ou si c'était un camion.
Merci, on va considérer cela comme votre conclusion, je voulais dire, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole pour conclure, il y a Raphaël Raff qui nous écrit depuis Lubumbashi. Alors, madame, ma question s'adresse au ministre Julien Paluku. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour promouvoir la production des produits locaux face aux produits qui viennent faire la concurrence pour parvenir à aboutir à la consommation locale? Voilà, monsieur le ministre.
Oui, merci madame. Je pense que notre co-débatteur qui est dans le studio a clairement indiqué que le vice-premier ministre en charge du commerce extérieur est en train de prendre des mesures, notamment la réduction d'un grand nombre de taxes qui sont toxiques et qui empêchent effectivement que nos produits deviennent compétitifs. Deuxième chose, nous avons au niveau de la commission ECOFIN la mission d'identifier les grands opérateurs économiques qui vont bénéficier des subventions du gouvernement dans le domaine de l'agriculture. Subvention, ça veut dire on ne leur donne pas l'argent comme tel, mais on subventionne l'activité agricole pour que celui qui s'y investit ne paye aucun impôt, ne paye aucune taxe. Et le gouvernement gagne par le nombre d'emplois que cela crée. Je rappelle que chaque hectare cultivé donne au moins 3 emplois. Donc si nous cultivons 100 000 hectares, nous sommes à 300 000 emplois. Si nous cultivons 1 million d'hectares, nous avons 3 millions d'emplois. Or, vous le savez, le président de la République a dit qu'il veut créer 6 millions d'emplois dans les 5 ans. Donc le secteur pourvoyeur d'emplois par excellence, c'est l'agriculture. Mais ce que je voudrais dire à tout le peuple congolais, c'est que on assiste les médecins parler économie, les économistes parler médecine, les agronomes parler aviation. Je crois que ça détourne l'opinion réellement de la voie que nous devons suivre. Il faut qu'on laisse dans chaque secteur les personnes attitrées de définir les politiques publiques qui doivent être tracées et avoir l'accompagnement de l'opinion publique. Sinon, tout le monde s'improvise expert dans telle matière et finalement, on ne sait pas qui fait quoi. Il est vrai que le co-débatteur a évoqué un élément très important sur lequel le gouvernement doit s'atteler, c'est la construction du support infrastructurel. Il n'y a pas de développement sans infrastructure, que ce soit les routes, que ce soit les chemins de fer, que ce soit les centrales hydroélectriques, que ce soit notre écosystème. Mais ici, je suis ministre du commerce extérieur, au nom de la solidarité gouvernementale, je parle de toutes ces choses. Mais il n'est pas interdit au ministère sectoriel de ces domaines-là de pouvoir être invité aussi par vous pour que l'on voie les efforts qui sont faits dans chaque secteur, dans chaque domaine, dans le sens de rencontrer ce que mon ami et frère a pu évoquer tout à l'heure, notamment ce que le gouvernement doit faire pour soutenir les efforts locaux en accompagnant la construction des infrastructures nécessaires.
Merci, Monsieur le ministre Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Gomer Mungomba Muyumba, moi je dis que notre pays n'a pas d'industrie locale, surtout ici au Katanga. Pour prendre une décision, il faut construire. Aujourd'hui, la Zambie nous fournit même le courant électrique. Votre conclusion, Fabrice Gabo.
Effectivement, madame, moi je pense d'ailleurs qu'il faut encore une fois aller plus loin pour prendre une série de mesures similaires, de manière à ce que beaucoup de produits qui nous viennent de l'extérieur soient frappés d'interdiction, de manière à promouvoir l'industrie locale. Mais pour promouvoir l'industrie locale, il faut que dans une approche globale, le gouvernement conçoive une vision de développement qui est beaucoup plus claire, qui est centrée essentiellement sur les priorités. Et je vous dis sans embâge, les priorités en matière de développement dans notre pays sont d'abord et avant tout les infrastructures. Et puis le reste va suivre. C'est-à-dire, j'ai parlé des routes, je parlais de l'accès à l'électricité, je parlais de l'accès à l'eau, je parlais de la lutte contre la corruption et je vous ai parlé enfin des efforts qui doivent être fournis dans la sécurité. Enfin, pour terminer, je pense qu'il y a un autre phénomène qui est clair sur lequel un des intervenants est revenu. C'est la multiplicité des taxes ou, si vous voulez bien, la tracasserie administrative et fiscale dont sont victimes les entrepreneurs congolais dans tout le pays tous les jours. Et donc, autant nous avons un système fiscal où vous avez les impôts qui ne posent pas problème, mais le gouvernement doit prendre une décision pour pouvoir assainir l'ordonnance qui porte la nomenclature des droits, taxes et redevances. Nous avons un nombre de taxes, de redevances dont moi je ne pourrais pas vous donner les chiffres ici. Et donc il y a un problème sérieux de multiplicité des taxes et ça décourage l'esprit et l'idée entrepreneuriale. Et donc il faut que le gouvernement prenne une décision pour supprimer un certain nombre de taxes qui sont de trop, qui sont inutiles, qui posent lourdement et inutilement sur le fardeau des entrepreneurs, de manière à ce que la population qui est majoritairement dans l'économie informelle puisse maintenant venir dans le formel, dans l'espoir qu'elle ne sera pas tracassée et va positivement contribuer au développement socio-économique du pays.
Merci Fabrice Ngabo, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme pour la fréquence de la paix.